Honoré de Balzac, adieu au pluriel. Allons, députés du centre, en avant. Il s'agit d'aller au pas accéléré si nous voulons être à table en même temps que les autres. Oh le pied, saute, marquis, là donc, bien, mais vous franchissez les sillons comme un véritable cerf. Ces paroles étaient prononcées par un chasseur paisiblement assis sur une lisière de la forêt de l'Isle-Adam et qui achevait de fumer un cigare de la Havane en attendant son compagnon, sans doute égaré depuis longtemps dans les halliers de la forêt. À ses côtés, quatre chiens haletants regardaient comme lui le personnage auquel il s'adressait. Pour comprendre combien étaient railleuses ces allocutions répétées par intervalles, il faut dire que le chasseur était un gros homme court, dont le ventre proéminent accusait un embonpoint véritablement ministériel. Aussi arpentait-il avec peine les sillons d'un vaste champ récemment moissonné, dont les chaumes gênaient considérablement sa marche. Puis, pour surcroît de douleur, les rayons du soleil qui frappaient obliquement sa figure y amassaient de grosses gouttes de sueur. Préoccupé par le soin de garder son équilibre, il se penchait tantôt en avant, tantôt en arrière, en imitant ainsi les soubresauts d'une voiture fortement cahotée. Ce jour était d'un de ceux qui, pendant le mois de septembre, achèvent de mûrir les raisins par des feux équatoriaux. Le temps annonçait un orage. Quoique plusieurs grands espaces d'azur séparassent encore vers l'horizon de gros nuages noirs, on voyait des nuées blondes s'avancer avec une effrayante rapidité en étendant de l'ouest à l'est un léger rideau grisâtre. Le vent, n'agissant que dans la haute région de l'air, l'atmosphère comprimait vers les bas-fonds les brûlantes vapeurs de la terre. Entouré de hautes futaies qui le privaient d'air, le vallon que franchissait le chasseur avait la température d'une fournaise. Ardente et silencieuse, la forêt semblait avoir soif. Les oiseaux, les insectes étaient muets, et les cimes des arbres s'inclinaient à peine. Les personnes auxquelles il reste quelques souvenirs de l'été de 1819 doivent compatir aux mots du pauvre ministériel qui suait sans guéo pour rejoindre son compagnon moqueur. Tout en fumant son cigare, celui-ci avait calculé, par la position du soleil, qu'il pouvait être environ 5 heures du soir. « Où diable sommes-nous ? » dit le gros chasseur en s'essuyant le front et s'appuyant contre un arbre du champ presque en face de son compagnon, car il ne se sentit plus la force de sauter le large fossé qui l'en séparait. « C'est à moi que tu le demandes, » répondit en riant le chasseur couché dans les hautes herbes jaunes qui couronnaient le talus. Il jeta le bout de son cigare dans le fossé en s'écriant « Oh, je jure par Saint-Hubert qu'on ne me reprendra plus à m'aventurer dans un pays inconnu avec un magistrat, fût-il comme toi, mon cher Dalbon, un vieux camarade de collège. » « Mais Philippe, vous ne me connaissez donc plus le français. Vous avez sans doute laissé votre esprit en Sibérie, » répliqua le gros homme, en lançant un regard douloureusement comique sur un poteau qui se trouvait là à 100 pas. « J'entends, » répondit Philippe, qui saisit son fusil, se leva tout à coup, s'élança d'un seul bond dans le champ et courut vers le poteau. « Par ici, dans le bon, par ici, demi-tour à gauche !» cria-t-il à son compagnon, en lui indiquant par un geste une large voie pavée. « Chemin de Baillet à l'Isle-Adam, » reprit-il. « Ainsi nous trouverons dans cette direction celui de Cassan qui doit s'embrancher sur celui de l'Isle-Adam. » C'est juste, mon colonel, » dit M. Dalbon en remettant sur sa tête une casquette avec laquelle il venait de s'éventer. « En avant donc, mon respectable conseiller, » répondit le colonel Philippe, en sifflant les chiens qui semblaient déjà lui mieux obéir qu'au magistrat auquel ils appartenaient. « Savez-vous, monsieur le marquis, » reprit le militaire goguenard, que nous avons encore plus de 2 lieues à faire. Le village que nous apercevons là-bas doit être Baillet. » Grand Dieu ! S'écria le marquis d'Albon. « Allez à Cassan, si cela peut vous être agréable. Ben, vous irez tout seul. Je préfère attendre ici, malgré l'orage, un cheval que vous m'enverrez du château. Mais vous êtes moqué de moi, Sucy. Nous devions faire une jolie petite partie de chasse, ne pas éloigner de Cassan, fureter sur les terres que je connais. Bon, au lieu de nous amuser, vous m'avez fait courir comme un lévrier depuis 4 heures du matin, et nous n'avons eu pour tout déjeuner que 2 tasses de lait. Oh ! Si vous avez jamais un procès à la cour, je vous le ferai perdre, eussiez-vous 100 fois raison. » Le chasseur découragé s'assit sur une des bornes qui était au pied du poteau, se débarrassa de son fusil, de sa carnassière vide, et poussa un long soupir. « France, voilà tes députés !» s'écria en riant le colonel de Sucy. « Ah, mon pauvre d'Albon, si vous aviez été comme moi 6 ans au fond de la Sibérie !» Il n'acheva pas et leva les yeux au ciel, comme si ses malheurs étaient un secret entre Dieu et lui. « Allons, et marchez, ajouta-t-il, si vous restez assis, vous êtes perdu. » « Que voulez-vous, Philippe? C'est une si vieille habitude chez un magistrat. D'honneur, je suis excédé. Encore, si j'avais tué un lièvre. » Les deux chasseurs présentaient un contraste assez rare. Le ministériel était âgé de 42 ans et ne paraissait pas en avoir plus de 30, tandis que le militaire âgé de 30 ans semblait en avoir au moins 40. Tous deux étaient décorés de la rosette rouge, attribut des officiers de la Légion d'honneur. Quelques mèches de cheveux, mélangées de noir et de blanc comme l'aile d'une pie, s'échappaient de dessous la casquette du colonel. De belles boucles blondes ornaient les tempes du magistrat. L'un était d'une haute taille, sec, maigre, nerveux, et les rides de sa figure blanche trahissaient des passions terribles ou d'affreux malheurs. L'autre avait un visage brillant de santé, jovial et digne d'un épicurien. Tous deux étaient fortement hâlés par le soleil, et leurs longues guêtres de cuir fauve portaient les marques de tous les fossés, de tous les marais qu'ils avaient traversés. « Allons !» s'écria M. de Sucy. « Allons ! Après une petite heure de marche, nous sommes à Cassan devant une bonne table. » « Oh, il faut que vous m'ayez jamais aimé, » répondit le conseiller d'un air pitoyeusement comique. « Vous êtes aussi impitoyable que l'article 304 du Code pénal. » Philippe de Sucy tressaillit violemment. Son large front se plissa. Sa figure devint aussi sombre que l'était le soleil en ce moment. Quoiqu'un souvenir d'une affreuse amertume crispât tous ses traits, il ne pleura pas. Semblable aux hommes puissants, il savait refouler ses émotions au fond de son cœur et trouvait peut-être, comme beaucoup de caractères purs, une sorte d'impudeur à dévoiler ses peines quand aucune parole humaine n'en peut rendre la profondeur et qu'on redoute la moquerie des gens qui ne veulent pas les comprendre. Monsieur d'Albon avait une de ces âmes délicates qui devinent les douleurs et ressentent vivement la commotion qu'elles ont involontairement produite par quelque maladresse. Il respecta le silence de son ami, se leva, oublia sa fatigue, et le suivit silencieusement, tout chagrin d'avoir touché une plaie qui probablement n'était pas cicatrisée. « Un jour, mon ami, lui dit Philippe en lui serrant la main et en le remerciant de son muet repentir, par un regard déchirant, un jour, je te raconterai ma vie. Oh, aujourd'hui, je ne le saurais. » Ils continuèrent à marcher en silence. Quand la douleur du colonel parut dissipée, le conseiller retrouva sa fatigue et, avec l'instinct ou plutôt avec le vouloir d'un homme harassé, son œil sonda toutes les profondeurs de la forêt. Il interrogea les cimes des arbres examina les avenues en espérant y découvrir quelque gîte où il pût demander l'hospitalité. En arrivant à un carrefour, il crut apercevoir une légère fumée qui s'élevait entre les arbres. Il s'arrêta, regarda fort attentivement et reconnut au milieu d'un massif immense les branches vertes et sombres de quelques pins. « Une maison ! Une maison ! » s'écria-t-il avec le plaisir qu'aurait eu un marin à crier « Terre ! Terre !» Puis il s'élança vivement à travers un hallier assez épais, et le colonel, qui était tombé dans une profonde rêverie, l'y suivit machinalement. Mais mieux trouver ici une omelette, du pain de ménage et une chaise, que d'aller chercher à Cassan des divans, des truffes et du vin de Bordeaux. Ces paroles étaient une exclamation d'enthousiasme arrachée au conseiller par l'aspect d'un mur dont la couleur blanchâtre tranchait dans le lointain avec la masse brune des troncs noueux de la forêt. Ah, mais ceci m'a l'air d'être quelque ancien prieuré, s'écria le rechef, le marquis d'Albon, en arrivant à une grille antique et noire, d'où il put voir, au milieu d'un parc assez vaste, un bâtiment construit dans le style employé jadis pour les monuments monastiques. Comme ces coquins de moines savaient choisir un emplacement. Cette nouvelle exclamation était l'expression de l'étonnement que causait au magistrat le poétique ermitage qui s'offrait à ses regards. La maison était située à mi-côte, sur le revers de la montagne, dont le sommet est occupé par le village de Nerville. Les grands chênes séculaires de la forêt, qui décrivaient un cercle immense autour de cette habitation, en faisaient une véritable solitude. Le corps de logis jadis destiné aux moines avait son exposition au midi. Le parc paraissait avoir une quarantaine d'arpents. Auprès de la maison régnait une verte prairie, heureusement découpée par plusieurs ruisseaux clairs, par des nappes d'eau gracieusement posées, et sans aucun artifice apparent. Çà et là s'élevaient des arbres verts aux formes élégantes, aux feuillages variés. Puis des grottes habilement ménagées, des terrasses massives avec leurs escaliers dégradés et leurs rampes rouillées, imprimaient une physionomie particulière à cette sauvage thébaïde. L'art y avait élégamment uni ses constructions aux plus pittoresques effets de la nature. Les passions humaines semblaient devoir mourir au pied de ces grands arbres qui défendaient l'approche de cet asile au bruit du monde, comme ils y tempéraient les feux du soleil. « Quel désordre !» se dit M. Lalbon, après avoir joui de la sombre expression que les ruines donnaient à ce paysage qui paraissait frappé de malédiction. C'était comme un lieu funeste abandonné par les hommes. Le lierre avait étendu partout ses nerfs tortueux et ses riches manteaux. Des mousses brunes, verdâtres, jaunes ou rouges répandaient leur teinte romantique sur les arbres, sur les bancs, sur les toits, sur les pierres. Les fenêtres vermoulues étaient usées par la pluie, creusées par le temps. Les balcons étaient brisés, les terrasses démolies. Quelques persiennes ne tenaient plus que par un de leurs gonds. Les portes disjointes paraissaient ne pas devoir résister à un assaillant. Chargées des touffes luisantes du gui, les branches des arbres fruitiers négligés s'étendaient au loin sans donner de récolte. De hautes herbes croissaient dans les allées. Ces débris jetaient dans le tableau des effets d'une poésie ravissante et des idées rêveuses dans l'âme du spectateur. Un poète restait là, plongé dans une longue mélancolie, en admirant ce désordre plein d'harmonie, cette destruction qui n'était pas sans grâce. En ce moment, quelques rayons de soleil se firent jour à travers les crevasses des nuages, illuminèrent par des jets de mille couleurs cette scène à demi sauvage. les tuiles brunes resplendirent, les mousses brillèrent, des ombres fantastiques s'agitèrent sur les prés, sous les arbres, des couleurs mortes se réveillèrent, des oppositions piquantes se combattirent, les feuillages se découpèrent dans la clarté. Tout à coup, la lumière disparut. Ce paysage, qui semblait avoir parlé, se tut et redevint sombre, ou plutôt doux, comme la plus douce teinte d'un crépuscule d'automne. « C'est le palais de la Belle au bois dormant !» se dit le conseiller, qui ne voyait déjà plus cette maison qu'avec les yeux d'un propriétaire. « À qui cela peut-il donc appartenir ? Il faut être bien bête pour ne pas habiter une si jolie propriété. » Aussitôt, une femme s'élança de dessous un noyer planté à droite de la grille, et sans faire de bruit, passa devant le conseiller aussi rapidement que l'ombre d'un nuage. Cette vision le rendit muet de surprise. « Eh bien, Dalbon, qu'avez-vous ? » lui demanda le colonel. « Je me frotte les yeux pour savoir si je dors ou si je veille, » répondit le magistrat en se collant sur la grille pour tâcher de revoir le fantôme. « Mais probablement sous ce figuier, » dit-il en montrant à Philippe le feuillage d'un arbre qui s'élevait au-dessus du mur, à gauche de la grille. « Qui, elle ?»« Et puis-je le savoir ?» reprit M. Dalbon. « Il vient de se lever là, devant moi, » dit-il à voix basse, « une femme étrange. Elle m'a semblé plutôt appartenir à la nature des ombres qu'au monde des vivants. Elle est si svelte, si légère, si vaporeuse qu'elle doit être diaphane. Sa figure est aussi blanche que du lait. Ses vêtements, ses yeux, ses cheveux sont noirs. Elle m'a regardé en passant, et quoique je ne sois point peureux, son regard immobile et froid m'a figé le sang dans les veines. « Est-elle jolie ?» demanda Philippe. « Oh, je ne sais pas, je ne lui ai vu que les yeux dans la figure. »« Oh, diable d'idée de Cassan !» s'écria le colonel. « Restons ici. » « J'ai une envie d'enfant d'entrer dans cette singulière propriété. Vois-tu ces châssis de fenêtres en rouge et ces filets rouges dessinés sur les moulures des portes et des volets ? Ne semble-t-il pas que ce soit la maison du diable ? Il aura peut-être hérité des moines. Allons, courons après la dame blanche et noire. En avant !» s'écria Philippe avec une gaieté factice. En ce moment, les deux chasseurs entendirent un cri assez semblable à celui d'une souris prise au piège. Ils écoutèrent. Le feuillage de quelques arbustes froissés retentit dans le silence, comme le murmure d'une onde agitée, mais quoiqu'ils prêtassent l'oreille pour saisir quelques nouveaux sons, la terre resta silencieuse et garda le secret des pas de l'inconnu, si toutefois elle avait marché. « Voilà qui est singulier !» s'écria Philippe en suivant les contours que décrivaient les murs du parc. Les deux amis arrivèrent bientôt à une allée de la forêt qui conduit au village de Chauvry. Après avoir remonté ce chemin vers la route de Paris, ils se trouvèrent devant une grande grille et virent alors la façade principale de cette habitation mystérieuse. De ce côté, le désordre était à son comble. D'immenses lézardes sillonnaient les murs de trois corps de logis bâtis en équerre. Des débris de tuiles et d'ardoises amoncelés à terre et des toits dégradés annonçaient une complète incurie. Quelques fruits étaient tombés sous les arbres et pourrissaient sans qu'on les récoltât. Une vache paissait à travers les boulingrins et foulait les fleurs des plates-bandes, tandis qu'une chèvre broutait les raisins verts et les pampres d'une treille. « Ici, tout est harmonie, Et le désordre y est en quelque sorte organisé, dit le colonel en tirant la chaîne d'une cloche. Mais la cloche était sans battant. Les deux chasseurs n'entendirent que le bruit singulièrement aigre d'un ressort rouillé. Quoique très délabrée, la petite porte pratiquée dans le mur auprès de la grille résista néanmoins à tout effort. « Oh, oh, mais tout ceci devient très curieux !» dit-il à son compagnon. « Si j'étais pas magistrat, répondit Monsieur Dalbon, je croirais que la femme noire est une sorcière. » À peine avait-il achevé ces mots, que la vache vint à la grille et leur présenta son mufle chaud, comme si elle éprouvait le besoin de voir des créatures humaines. Alors une femme, si toutefois ce nom pouvait appartenir à l'être indéfinissable qui se leva de dessous une touffe d'arbustes, tira la vache par sa corde. Cette femme portait sur la tête un mouchoir rouge, d'où s'échappaient des mèches de cheveux blonds assez semblables à l'étoupe d'une quenouille. Elle n'avait pas de fichu. Un jupon de laine grossière à raies alternativement noires et grises, trop court de quelques pouces, permettait de voir ses jambes. L'on pouvait croire qu'elle appartenait à une des tribus de peau rouge célébrées par Cooper. Car ses jambes, son cou et ses bras nus semblaient avoir été peints en couleur de brique. Aucun rayon d'intelligence n'animait sa figure plate. Ses yeux bleuâtres étaient sans chaleur et ternes. Quelques poils blancs, clairsemés, lui tenaient lieu de sourcils. Enfin, sa bouche était contournée de manière à laisser passer des dents mal rangées, mais aussi blanches que celles d'un chien. « Ohé, la femme !» cria M. de Sucy. Elle arriva lentement jusqu'à la grille, en contemplant d'un air niais les deux chasseurs, à la vue desquels il lui échappa un sourire pénible et forcé. « Où sommes-nous? Quelle est cette maison-là? À qui est-elle? Qui êtes-vous? Êtes-vous d'ici ?» À ces questions et à une foule d'autres que lui adressèrent successivement les deux amis, elle ne répondit que par des grognements gutturaux qui semblaient appartenir plus à l'animal qu'à la créature humaine. « Ne voyez-vous pas qu'elle est sourde et muette ?» dit le magistrat. « Bon homme !» s'écria la paysanne. « Ah, elle a raison. Ceci pourrait bien être l'ancien couvent des bons hommes, dit M. Dalbon. » Les questions recommencèrent, mais, comme un enfant capricieux, la paysanne rougit, joua avec son sabot, tortilla la corde de la vache qui s'était remise à paître, regarda les deux chasseurs, examina toutes les parties de leur habillement. Elle glapit, grogna, gloussa, mais elle ne parla pas. « Ton nom ?» lui dit Philippe en la contemplant fixement, comme s'il eût voulu l'ensorceler. « Geneviève ?» dit-elle en riant d'un rire bête. Jusqu'à présent, la vache est la créature la plus intelligente que nous ayons vue, s'écria le magistrat. Je vais tirer un coup de fusil pour faire venir du monde. Au moment où Dalbon saisissait son arme, le colonel l'arrêta par un geste et lui montra du doigt l'inconnu qui avait si vivement piqué leur curiosité. Cette femme semblait ensevelie dans une méditation profonde et venait à pas lents, par une allée assez éloignée, en sorte que les deux amis eurent le temps de l'examiner. Elle était vêtue d'une robe de satin noir tout usée. Ses longs cheveux tombaient en boucles nombreuses sur son front, autour de ses épaules, descendaient jusqu'en bas de sa taille et lui servaient de châle. Accoutumée sans doute à ce désordre, elle ne chassait que rarement sa chevelure de chaque côté de ses tempes. Mais alors elle agitait la tête par un mouvement brusque et ne s'y prenait pas à deux fois pour dégager son front ou les yeux de ce voile épais. Son geste avait d'ailleurs, comme celui d'un animal, cette admirable sécurité de mécanisme dont la prestesse pouvait faire paraître un prodige dans une femme. Les deux chasseurs, étonnés, la virent sauter sur une branche de pommier et s'y attacher avec la légèreté d'un oiseau. Elle y saisit des fruits, les mangea, puis se laissa tomber à terre avec la gracieuse mollesse qu'on admire chez les écureuils. Ses membres possédaient une élasticité qui ôtait à ses moindres mouvements jusqu'à l'apparence de la gêne ou de l'effort. Elle joua sur le gazon, s'y roula comme aurait pu le faire un enfant, puis tout à coup elle jeta ses pieds et ses mains en avant et resta étendue sur l'herbe avec l'abandon, la grâce, le naturel d'une jeune chatte endormie au soleil. Le tonnerre ayant grondé dans le lointain, elle se retourna subitement et se mit à quatre pattes avec la miraculeuse adresse d'un chien qui entend venir un étranger. Par l'effet de cette bizarre attitude, sa noire chevelure se sépara tout à coup en deux larges bandeaux qui retombèrent de chaque côté de sa tête et permirent aux deux spectateurs de cette scène singulière d'admirer les épaules dont la peau blanche brilla comme les marguerites de la prairie, un cou dont la perfection faisait juger celle de toutes les proportions du corps. Elle laissa échapper un cri douloureux et se leva tout à fait sur ses pieds. Ses mouvements se succédaient si gracieusement, s'exécutaient si lestement, qu'elle semblait être non pas une créature humaine, mais une de ces filles de l'air célébrée par les poésies d'Ossian. Elle alla vers une nappe d'eau, secoua légèrement une de ses jambes pour la débarrasser de son soulier, et parut se plaire à tremper son pied blanc comme l'albâtre dans la source, en y admirant sans doute les ondulations qu'elle y produisait et qui ressemblaient à des pierreries. Puis elle s'agenouilla sur le bord du bassin, s'amusa comme un enfant à y plonger ses longues tresses et à les en tirer brusquement pour voir tomber goutte à goutte l'eau dont elles étaient chargées et qui, traversée par les rayons du jour, formait comme des chapelets de perles. « Cette femme est folle !» s'écria le conseiller. Un cri rauque poussé par Geneviève retentit et parut s'adresser à l'inconnu qui se redressa vivement en chassant ses cheveux de chaque côté de son visage. En ce moment, le colonel et Dalbon purent voir distinctement les traits de cette femme qui, en apercevant les deux amis, accourut en quelques bonds à la grille avec la légèreté d'une biche. « Adieu !» dit-elle d'une voix douce et harmonieuse, mais sans que cette mélodie, impatiemment attendue par les chasseurs, parut dévoiler le moindre sentiment ou la moindre idée. Monsieur Dalbon admira les longs cils de ses yeux, ses sourcils noirs bien fournis, une peau d'une blancheur éblouissante et sans la plus légère nuance de rougeur. De petites veines bleues tranchaient seules sur son teint blanc. Quand le conseiller se tourna vers son ami pour lui faire part de l'étonnement que lui inspirait la vue de cette femme étrange, il le trouva étendu sur l'herbe et comme mort. Monsieur Dalbon déchargea son fusil en l'air pour appeler du monde et cria « Au secours !» en essayant de relever le colonel. Au bruit de la détonation, l'inconnu, qui était resté immobile, s'enfuit avec la rapidité d'une flèche, jeta des cris d'effroi comme un animal blessé et tournoya sur la prairie en donnant les marques d'une terreur profonde. Monsieur Dalbon entendit le roulement d'une calèche sur la route de l'île Adam et implora l'assistance des promeneurs en agitant son mouchoir. Aussitôt, la voiture se dirigea vers les bons hommes et Monsieur Dalbon y reconnut Monsieur et Madame de Granville, ses voisins, qui s'empressèrent de descendre de leur voiture en l'offrant au magistrat. Madame de Granville avait par hasard un flacon de sel que l'on fit respirer à monsieur de Sucy. Quand le colonel ouvrit les yeux, il les tourna vers la prairie où l'inconnu ne cessait de courir en criant, et laissa échapper une exclamation indistincte, mais qui relevait un sentiment d'horreur. Puis il ferma de nouveau les yeux, en faisant un geste comme pour demander à son ami de l'arracher à ce spectacle. Monsieur et madame de Granville laissèrent le conseiller libre de disposer de leur voiture, en lui disant obligeamment qu'ils allaient continuer leur promenade à pied. « Quelle aide donc cette dame ?» demanda le magistrat en désignant l'inconnu. « Mais on présume qu'elle vient de Moulins, » répondit monsieur de Granville. « Elle se nomme la comtesse de Vandières, on l'a dit folle. Mais comme elle est ici que depuis 2 mois, je ne saurais vous garantir la véracité de tous ces oui-dire. » Monsieur d'Albon remercia monsieur et madame de Granville et partit pour Cassan. « C'est elle !» s'écria Philippe en reprenant ses sens. « Mais qui elle ?» demanda d'Albon. « Mais Stéphanie ! Oh ! Morte et vivante, vivante et folle ! Oh, j'ai cru que j'allais mourir !» Le prudent magistrat, qui apprécia la gravité de la crise à laquelle son ami était tout en proie, se garda bien de le questionner ou de l'irriter. Il souhaitait impatiemment arriver au château, car le changement qui s'opérait dans les traits et dans toute la personne du colonel lui faisait craindre que la comtesse n'eût communiqué à Philippe sa terrible maladie. Aussitôt que la voiture atteignit l'avenue de l'Isle-Adam, d'Albon envoya le laquais chez le médecin du bourg, en sorte qu'au moment où le colonel fut couché, le docteur se trouva au chevet de son lit. « Si monsieur le colonel n'avait pas été presque à jeun, dit le chirurgien, il était mort. C'est sa fatigue qui l'a sauvé. » Après avoir indiqué les premières précautions à prendre, le docteur sortit pour aller préparer lui-même une potion calmante. Le lendemain matin, monsieur de Sucy était mieux, mais le médecin avait voulu le veiller lui-même. « Je vous avouerai, monsieur le marquis, dit le docteur à monsieur d'Albon, que j'ai craint une lésion au cerveau. Monsieur de Sucy a reçu une bien violente commotion, ses passions sont vives. Mais chez lui, le premier coup porté décide de tout. Demain, il sera peut-être hors de danger. » Le médecin ne se trompa point, et le lendemain, il permit au magistrat de revoir son ami. « Mon cher d'Albon, dit Philippe en lui serrant la main, j'attends de toi un service. Cours promptement aux bons hommes. Informe-toi de tout ce qui concerne la dame que nous y avons vue et reviens promptement, car je compterai les minutes. » Monsieur d'Albon sauta sur un cheval et galopa jusqu'à l'ancienne abbaye. En y arrivant, il aperçut devant la grille un grand homme sec, dont la figure était prévenante, et qui répondit affirmativement quand le magistrat lui demanda s'il habitait cette maison ruinée. Monsieur d'Albon lui raconta les motifs de sa visite. « Eh, quoi, monsieur ? » s'écria l'inconnu. « Serait-ce vous qui avez tiré ce coup de fusil fatal ? Vous avez failli tuer ma pauvre malade. « Monsieur, j'ai tiré en l'air. « Oh, vous auriez fait moins de mal à madame la comtesse si vous l'eussiez atteinte. » Eh bien, nous n'avons rien à nous reprocher, car la vue de votre comtesse a failli tuer mon ami, monsieur de Sucy. Serait-ce le baron Philippe de Sucy ? S'écria le médecin en joignant les mains. Est-il allé en Russie, au passage de la Bérézina ? Oui, reprit d'Albon, il a été pris par des Cosaques et mené en Sibérie, d'où il est revenu depuis 11 mois environ. Entrez, monsieur, dit l'inconnu, en conduisant le magistrat dans un salon situé au rez-de-chaussée de l'habitation où tout portait les marques d'une dévastation capricieuse. Des vases de porcelaine précieux étaient brisés à côté d'une pendule dont la cage était respectée. Les rideaux de soie drapés devant les fenêtres étaient déchirés, tandis que le double rideau de mousseline restait intact. « Vous voyez, dit-il à M. d'Albon en entrant, les ravages exercés par la charmante créature à laquelle je me suis consacré. C'est ma nièce. Malgré l'impuissance de mon art, j'espère lui rendre un jour la raison, en essayant une méthode qui ne m'a pas permis qu'aux gens riches de suivre. » Puis, comme toutes les personnes qui vivent dans la solitude en proie à une douleur renaissante, il raconta longuement au magistrat l'aventure suivante, dont le récit a été coordonné et dégagé des nombreuses digressions que firent le narrateur et le conseiller. En quittant, sur les 9 heures du soir, les hauteurs de Studzianka qu'il avait défendu pendant toute la journée du 28 novembre 1812, le maréchal Victor y laissa 1 millier d'hommes chargés de protéger jusqu'au dernier moment celui des 2 ponts construits sur la Bérézina qui subsistait encore. Cette arrière-garde s'était dévouée pour tâcher de sauver une effroyable multitude de traînards engourdis par le froid qui refusaient obstinément de quitter les équipages de l'armée. L'héroïsme de cette généreuse troupe devait être inutile. Les soldats qui affluaient par masse sur les bords de la Bérézina y trouvaient par malheur l'immense quantité de voitures, de caissons et de meubles de toute espèce que l'armée avait été obligée d'abandonner en effectuant son passage pendant les journées des 27 et 28 novembre. Héritiers de richesses inespérées, ces malheureux abrutis par le froid se logeaient dans des bivouacs vides, brisaient le matériel de l'armée pour se construire des cabanes, faisaient du feu avec tout ce qui leur tombait sous la main, dépeçaient les chevaux pour se nourrir, arrachaient le drap ou les toiles des voitures pour se couvrir, et dormaient au lieu de continuer leur route et de franchir paisiblement pendant la nuit cette Bérézina qu'une incroyable fatalité avait déjà rendue si funeste à l'armée. L'apathie de ces pauvres soldats ne peut être comprise que par ceux qui se souviennent d'avoir traversé ces vastes déserts de neige sans autre boisson que la neige, sans autre lit que la neige, sans autre perspective qu'un horizon de neige, sans autre aliment que la neige ou quelques betteraves gelées, quelques poignées de farine ou de la chair de cheval. Mourant de faim, de soif, de fatigue et de sommeil, ces infortunés arrivaient sur une plage où ils apercevaient du bois, des feux, des vivres, d'innombrables équipages abandonnés, des bivouacs, enfin toute une ville improvisée. Le village de Studzianka avait été entièrement dépecé, partagé, transporté les hauteurs dans la plaine. Quelque dolente et périlleuse que fût cette cité, ses misères et ses dangers souriaient à des gens qui ne voyaient devant eux que les épouvantables déserts de la Russie. Enfin, c'était un vaste hôpital qui n'eut pas 20 heures d'existence. La lassitude de la vie ou le sentiment d'un bien-être inattendu rendait cette masse d'hommes inaccessible à toute pensée autre que celle du repos. Quoique l'artillerie de l'aile gauche des Russes tirât sans relâche sur cette masse qui se dessinait comme une grande tache, tantôt noire, tantôt flamboyante, au milieu de la neige, ces infatigables boulets ne semblaient à la foule engourdie qu'une incommodité de plus. C'était comme un orage dont la foudre était dédaignée par tout le monde, parce qu'elle devait n'atteindre çà et là que des mourants, des malades ou des morts peut-être. À chaque instant, les traîneurs arrivaient par groupes. Ces espèces de cadavres ambulants se divisaient aussitôt et allaient mendier une place de foyer en foyer. Puis, repoussés le plus souvent, ils se réunissaient de nouveau pour obtenir de force l'hospitalité qui leur était refusée. Sourds à la voix de quelques officiers qui leur prédisaient la mort pour le lendemain, ils dépensaient la somme de courage nécessaire pour passer le fleuve, à se construire un asile d'une nuit, à faire un repas, souvent funeste. Cette mort qui les attendait ne leur paraissait plus un mal, puisqu'elle leur laissait une heure de sommeil. Ils ne donnaient le nom de mal qu'à la faim, à la soif, au froid. Quand il ne se trouva plus ni bois, ni feu, ni toile, ni abri, d'horribles luttes s'établirent entre ceux qui survenaient dénués de tout et les riches qui possédaient une demeure. Les plus faibles succombèrent. Enfin, il arriva un moment où quelques hommes, chassés par les Russes, n'eurent plus que la neige pour bivouac et s'y couchèrent pour ne plus se relever. Insensiblement, cette masse d'êtres presque anéantis devint si compacte, si sourde, si stupide ou si heureuse peut-être, que le maréchal Victor, qui en avait été l'héroïque défenseur en résistant à 20 000 Russes, commandés par Wittgenstein, fut obligé de s'ouvrir un passage de vive force à travers cette forêt d'hommes, afin de faire franchir la Bérézina aux 5 000 braves qui l'amenaient à l'empereur. Ces infortunés se laissaient écraser plutôt que de bouger et périssaient en silence, en souriant à leurs feux éteints et sans penser à la France. À 10 heures du soir seulement, le duc de Bellune se trouva de l'autre côté du fleuve. Avant de s'engager sur les ponts qui menaient à Zembin, il confia le sort de l'arrière-garde de Studzianka à Eblé, ce sauveur de tous ceux qui survécurent aux calamités de la Bérézina. Ce fut environ vers minuit que ce grand général, suivi d'un officier de courage, quitta la petite cabane qu'il occupait auprès du pont et se mit à contempler le spectacle que présentait le camp situé entre la rive de la Bérézina et le chemin de Borizov à Studzianska. Le canon des Russes avait cessé de tonner. Des feux innombrables qui, au milieu de cet amas de neige, pâlissaient et semblaient ne pas jeter de lueur, éclairaient çà et là des figures qui n'avaient rien d'humain. Des malheureux, au nombre de 30 000 environ, appartenant à toutes les nations que Napoléon avait jetées sur la Russie, étaient là, jouant leur vie avec une brutale insouciance. « Sauvons tout cela !» dit le général à l'officier. « Demain matin, les Russes seront maîtres de Studzianka. Il faudra donc brûler le pont au moment où ils paraîtront. Ainsi, mon ami, du courage. Fais-toi jour jusqu'à la hauteur. Dis au général Fournier qu'à peine a-t-il le temps d'évacuer sa position, de percer tout ce monde et de passer le pont. Quand tu l'auras vu se mettre en marche, tu le suivras. » Aidé par quelques hommes valides, tu brûleras sans pitié les bivouacs, les équipages, les caissons, les voitures, tout. Chasse ce monde-là sur le pont. Contrains tout ce qui a deux jambes à se réfugier sur l'autre rive. L'incendie est maintenant notre dernière ressource. Si Berthier m'avait laissé détruire ses derniers équipages, ce fleuve n'aurait englouti personne que mes pauvres pontonniers, ces 50 héros qui ont sauvé l'armée. Et qu'on oubliera. » Le général porta la main à son front et resta silencieux. Il sentait que la Pologne serait son tombeau et qu'aucune voix ne s'élèverait en faveur de ces hommes sublimes qui se tinrent dans l'eau de la Bérézina, pour y enfoncer les chevalets des ponts. Un seul d'entre eux vit encore, ou pour être exact, s'ouvre dans un village ignoré. L'aide de camp partit. À peine ce généreux officier avait-il fait 100 pas vers Studzianka que le général Eblé réveilla plusieurs de ses pontonniers souffrants et commença son œuvre charitable en brûlant les bivouacs établis autour du pont et en obligeant ainsi les dormeurs qui l'entouraient à passer la Bérézina. Cependant, le jeune aide de camp était arrivé, non sans peine, à la seule maison de bois qui fut restée debout à Studzianka. « Cette baraque est donc bien pleine, mon camarade, » dit-il à un homme qu'il aperçut en dehors. Oh, si vous y entrez, vous serez un habile troupier, répondit l'officier, sans se détourner et sans cesser de démolir avec son sabre le bois de la maison. Est-ce vous, Philippe ? Dit l'aide de camp, en reconnaissant au son de la voix l'un de ses amis. Oui, c'est toi, mon vieux, répliqua Monsieur de Sucy, en regardant l'aide de camp, qui n'avait comme lui que 23 ans. Je te croyais de l'autre côté de cette sacrée rivière. Viens-tu nous apporter des gâteaux et des confitures pour notre dessert ? Tu seras bien reçu, ajouta-t-il, en achevant de détacher l'écorce du bois qu'il donnait en guise de provende à son cheval. Je cherche votre commandant pour le prévenir de la part du général Eblé de filer sur Zembine. Vous avez à peine le temps de percer cette masse de cadavres que je vais incendier tout à l'heure afin de les faire marcher. Tu me réchauffes presque. Ta nouvelle me fait suer. J'ai 2 amis à sauver. Oh, sans ces 2 marmottes, mon vieux, je serais déjà mort. C'est pour eux que je soigne mon cheval et que je ne le mange pas. Par grâce, as-tu quelques croûtes ? Voilà 30 heures que je n'ai rien mis dans mon coffre et me suis battu comme un enragé afin de conserver le peu de chaleur et de courage qui me reste. Pauvre Philippe, non, rien, rien. Mais votre général est là. Non, laissez pas d'entrer, cette grange contient nos blessés. Monte encore plus haut, tu rencontreras sur ta droite une espèce de toit à porc. Le général est là. Adieu, mon brave. Si jamais nous dansons la traînée sur un parquet de Paris. Il n'acheva pas. La bise souffla dans ce moment avec une telle perfidie que l'aide de camp marcha pour ne pas se geler et que les lèvres du major Philippe se glacèrent. Le silence régna bientôt. Il n'était interrompu que par les gémissements qui partaient de la maison et par le bruit sourd que faisait le cheval de Monsieur de Sucy en broyant de faim et de rage l'écorce glacée des arbres avec lesquels la maison était construite. Le major remit son sabre dans le fourreau, prit brusquement la bride du précieux animal qu'il avait su conserver et l'arracha, malgré sa résistance, à la déplorable pâture dont il paraissait friand. « En route, Bichette, en route. Il n'y a que toi, ma belle, qui puisse sauver Stéphanie. Va, plus tard, il nous sera permis de reposer, de mourir, sans doute. » Philippe, enveloppé d'une pelisse à laquelle il devait sa conservation et son énergie, se mit à courir en frappant de ses pieds la neige durcie pour entretenir la chaleur. À peine le major eut-il fait 500 pas, qu'il aperçut un feu considérable à la place où, depuis le matin, il avait laissé sa voiture sous la garde d'un vieux soldat. Une inquiétude horrible s'empara de lui. Comme tous ceux qui, pendant cette déroute, furent dominés par un sentiment puissant, il trouva, pour secourir ses amis, des forces qu'il n'aurait pas eues pour se sauver lui-même. Il arriva bientôt à quelques pas d'un pli formé par le terrain, et au fond duquel il avait mis à l'abri des boulets une jeune femme, sa compagne d'enfance et son bien le plus cher. À quelques pas de la voiture, une 30aine de traînards étaient réunis devant un immense foyer qu'ils entretenaient en y jetant des planches, des dessus de caissons, des roues et des panneaux de voiture. Ces soldats étaient sans doute les derniers venus de tous ceux qui, depuis le large sillon décrit par le terrain au bas de Stutzianka jusqu'à la fatale rivière, formait comme un océan de têtes de feu de baraques, une mer vivante agitée par des mouvements presque insensibles, et d'où il s'échappait un sourd bruissement, parfois mêlé d'éclats terribles. Poussés par la faim et par le désespoir, ces malheureux avaient probablement visité de force la voiture. Le vieux général et la jeune femme qu'ils y trouvèrent couchés sur des hardes, enveloppés de manteaux et de pelisses, gisaient en ce moment accroupis devant le feu. L'une des portières de la voiture était brisée. Aussitôt que les hommes placés autour du feu entendirent les pas du cheval et du major, il s'éleva parmi eux un cri de rage inspiré par la faim. « Un cheval ! Un cheval !» Les voix ne formèrent qu'une seule voix. « Retirez-vous, gare à vous !» s'écrièrent deux ou trois soldats en ajustant le cheval. Philippe se mit devant sa jument en disant « Gredin, je vais vous culbuter tous dans votre feu. Il y a des chevaux morts là-haut, allez les chercher. Est-il farceur, cet officier-là ? Allez, une fois, deux fois. Te déranges-tu ? » répliqua un grenadier colossal. « Non ? Eh bien, comme tu voudras, alors. » Un cri de femme domina la détonation. Philippe ne fut heureusement pas atteint, mais Bichette, qui avait succombé, se débattait contre la mort. Trois hommes s'élancèrent et l'achevèrent à coups de baïonnette. « Cannibale ! Laissez-moi prendre la couverture et mes pistolets !» dit Philippe au désespoir. « Va pour les pistolets !» répliqua le grenadier. « Quant à la couverture, voilà un fantassin qui depuis deux jours n'a rien dans le fanal et qui grelotte avec son méchant habit de vinaigre. C'est notre général !» Philippe garda le silence en voyant un homme dont la chaussure était usée, le pantalon troué en 10 endroits et qui n'avait sur la tête qu'un mauvais bonnet de police chargé de gris givre. Il s'empressa de prendre ses pistolets. 5 hommes amenèrent la jument devant le foyer et se mirent à la dépecer avec autant d'adresse qu'auraient pu le faire des garçons bouchers de Paris. Les morceaux étaient miraculeusement enlevés et jetés sur des charbons. Le major alla se placer auprès de la femme qui avait poussé un cri d'épouvante en le reconnaissant. Il la trouva immobile, assise sur un coussin de la voiture et se chauffant. Elle le regarda silencieusement, sans lui sourire. Philippe aperçut alors près de lui le soldat auquel il avait confié la défense de la voiture. Le pauvre homme était blessé. Accablé par le nombre, il venait de sceller au traînard qu'il avait attaqué. Mais comme le chien qui a défendu jusqu'au dernier moment le dîner de son maître, il avait pris sa part du butin et s'était fait une espèce de manteau avec un drap blanc. En ce moment, il s'occupait de retourner un morceau de la jument, et le major vit sur sa figure la joie que lui causaient les apprêts du festin. Le comte de Vandière, tombé depuis 3 jours comme en enfance, restait sur un coussin près de sa femme et regardait d'un œil fixe ses flammes dont la chaleur commençait à dissiper son engourdissement. Il n'avait pas été plus ému du danger de l'arrivée de Philippe que du combat par suite duquel sa voiture venait d'être pillée. D'abord, Sucy saisit la main de la jeune comtesse comme pour lui donner un témoignage d'affection et lui exprimer la douleur qu'il éprouvait de la voir ainsi réduite à la dernière misère. Mais il resta silencieux près d'elle, assis sur un tas de neige qui ruisselait en fondant, et céda lui-même au bonheur de se chauffer en oubliant le péril, en oubliant tout. Sa figure contracta malgré lui une expression de joie presque stupide, et il attendit avec impatience que le lambeau de jument donné à son soldat fût rôti. L'odeur de cette chair charbonnée irritait sa faim, et sa faim faisait taire son cœur, son courage et son amour. Il contempla sans colère les résultats du pillage de sa voiture. Tous les hommes qui entouraient le foyer s'étaient partagés les couvertures, les coussins, les pelisses, les robes, les vêtements d'hommes et de femmes appartenant au comte, à la comtesse et au major. Philippe se retourna pour voir si l'on pouvait encore tirer parti de la caisse. Il aperçut, à la lueur des flammes, l'or, les diamants, l'argenterie, éparpillés sans que personne songeât à s'en approprier la moindre parcelle. Chacun des individus réunis par le hasard autour de ce feu gardait un silence qui avait quelque chose d'horrible et ne faisait que ce qu'il jugeait nécessaire à son bien-être. Cette misère était grotesque. Les figures, décomposées par le froid, étaient enduites d'une couche de boue sur laquelle les larmes traçaient, à partir des yeux jusqu'au bas des joues, un sillon qui attestait l'épaisseur de ce masque. La malpropreté de leurs longues barbes rendait ces soldats encore plus hideux. Les uns étaient enveloppés dans des châles de femmes, les autres portaient des chabraques de cheval, des couvertures crottées, des haillons empreints de givre qui fondaient. Quelques-uns avaient un pied dans une botte et l'autre dans un soulier. Enfin, il n'y avait personne dont le costume n'offrit une singularité risible. En présence de choses si plaisantes, ces hommes restaient graves et sombres. Le silence n'était interrompu que par le craquement du bois, par les pétillements de la flamme, par le lointain murmure du camp et par les coups de sabre que les plus affamés donnaient à Bichette pour en arracher les meilleurs morceaux. Quelques malheureux, plus las que les autres, dormaient, et si l'un d'eux venait à rouler dans le foyer, personne ne le relevait. Ces logiciens sévères pensaient que s'il n'était pas mort, la brûlure devait l'avertir de se mettre en un lieu plus commode. Si le malheureux se réveillait dans le feu et périssait, personne ne le plaignait. Quelques soldats se regardaient comme pour justifier leur propre insouciance par l'indifférence des autres. La jeune comtesse eut deux fois ce spectacle et resta muette. Quand les différents morceaux que l'on avait mis sur des charbons furent cuits, chacun satisfit sa faim avec cette gloutonnerie qui, vue chez les animaux, nous semble dégoûtante. « Voilà la première fois qu'on aura vu 30 fantassins sur un cheval !» s'écria le grenadier qui avait abattu la jument. Ce fut la seule plaisanterie qui attesta l'esprit national. Bientôt, la plupart de ces pauvres soldats se roulèrent dans leurs habits, se placèrent sur des planches, sur tout ce qui pouvait les préserver du contact de la neige et dormir, nonchalant du lendemain. Quand le major fut réchauffé et qu'il eut apaisé sa faim, un invincible besoin de dormir s'apesantir sur ses paupières. Pendant ce temps assez court que dura son débat avec le sommeil, il contempla cette jeune femme qui, s'étant tournée la figure vers le feu pour dormir, laissait voir ses yeux clos et une partie de son front. Elle était enveloppée dans une pelisse fourrée et dans un gros manteau de dragon. Sa tête portait sur une oreille tachée de sang. Son bonnet d'astrakhan, maintenu par un mouchoir noué sous le cou, lui préservait le visage du froid autant que cela était possible. Elle s'était cachée les pieds dans le manteau. Ainsi, roulée sur elle-même, elle ne ressemblait réellement à rien. Était-ce la dernière des vivantes hier? Était-ce cette charmante femme, la gloire d'un amant, la reine des bals parisiens? Hélas, l'œil même de son ami le plus dévoué n'apercevait plus rien de féminin dans cet amas de linges et de haillons. L'amour avait succombé sous le froid dans le cœur d'une femme. À travers les voiles épais que le plus irrésistible de tous les sommeils étendait sur les yeux du major, il ne voyait plus le mari et la femme que comme deux points. Les flammes du foyer, ces figures étendues, ce froid terrible qui rugissait à trois pas d'une chaleur fugitive, tout était rêve. Une pensée importune effrayait Philippe. « Nous allons tous mourir si je dors. Je ne veux pas dormir, se disait-il. Il dormait. Une clameur terrible et une explosion réveillèrent M. de Sucy après une heure de sommeil. Le sentiment de son devoir, le péril de son ami, retombèrent tout à coup sur son cœur. Il jeta un cri semblable à un rugissement. Lui et son soldat étaient seuls debout. Ils virent une mer de feu qui découpait devant eux dans l'ombre de la nuit une foule d'hommes en dévorant les bivouacs et les cabanes. Ils entendirent des cris de désespoir, des hurlements. Ils aperçurent des milliers de figures désolées et de faces furieuses. Au milieu de cet enfer, une colonne de soldats se faisait un chemin vers le pont entre deux haies de cadavres. « C'est la retraite de notre arrière-garde !» s'écria le major. « Plus d'espoir !» « J'ai respecté votre voiture, Philippe, » dit une voix amie. En se retournant, Sucy reconnut le jeune aide-de-camp à la lueur des flammes. « Ah, tout est perdu !» répondit le major. « Ils ont mangé mon cheval. D'ailleurs, comment pourrais-je faire marcher ce stupide général et sa femme ?»« Prenez un tison, Philippe, et menacez-les !» Menacer la comtesse ! Adieu ! S'écria l'aide-de-camp. Je n'ai que le temps de passer cette fatale rivière, et il le faut. J'ai une mère en France. Quelle nuit ! Cette foule aime bien rester sur la neige, et la plupart de ces malheureux se laissent brûler plutôt que de se lever. Il est 4 heures, Philippe. Dans 2 heures, les Russes commenceront à se remuer. Je vous assure que vous verrez la Bérésina encore une fois chargée de cadavres. Philippe, songez à vous. Vous n'avez pas de chevaux, vous ne pouvez pas porter la comtesse. Ainsi alors, venez avec moi, dit-il en le prenant par le bras. Bon, mon ami, abandonnez Stéphanie. Le major saisit la comtesse, la mit debout, la secoua avec la rudesse d'un homme au désespoir. Elle la contraignit de se réveiller. Elle le regarda d'un œil fixe et mort. « Il faut marcher, Stéphanie, ou nous mourrons ici. » Pour toute réponse, la comtesse essayait de se laisser aller à terre pour dormir. L'aide de camp saisit un tison et l'agita devant la figure de Stéphanie. « Sauvons-la malgré elle !» s'écria Philippe en soulevant la comtesse qu'il porta dans la voiture. Il revint à pleurer l'aide de son ami. Tous deux prirent le vieux général, sans savoir s'il était mort ou vivant, et le mirent auprès de sa femme. Le major fit rouler avec le pied chacun des hommes qui gisaient à terre, leur reprit ce qu'ils avaient pillé, entassa toutes les hardes sur les deux époux, et jeta dans un coin de la voiture quelques lambeaux rôtis de sa jument. « Mais que voulez-vous donc faire ?» lui dit l'aide-de-camp. « La traîner !» dit le major. « Vous êtes fou !»« C'est vrai !» s'écria Philippe en se croisant les bras sur la poitrine. Il parut tout à coup saisi par une pensée de désespoir. « Mais toi » dit-il en saisissant le bras valide de son soldat, « je te la confie pour une heure. Songe que tu dois plutôt mourir que de laisser approcher qui que ce soit de cette voiture. » Le major s'empara des diamants de la comtesse, les tint d'une main, tira de l'autre son sabre, se mit à frapper rageusement ceux des dormeurs qu'il jugeait devoir être les plus intrépides, et réussit à réveiller le grenadier colossal et 2 autres hommes, dont il était impossible de connaître le grade. « Nous sommes flambés !» leur dit-il. « Je le sais bien, » répondit le grenadier, « mais ça m'est égal. Eh bien, mort pour mort, ne vaut-il pas mieux vendre sa vie pour une jolie femme et risquer de revoir encore la France ?»« Mais mieux dormir !» dit un homme en se roulant sur la neige. « Et si tu me crapasses encore, major, je te fiche mon briquet dans le ventre. » De quoi s'agit-il, mon officier ? Reprit le grenadier. Cet homme est ivre, c'est un Parisien, ça aime ses aises. Ceci sera pour toi, brave grenadier, s'écria le major en lui présentant une rivière de diamants. Si tu veux me suivre et te battre comme un enragé. Les Russes sont à 10 minutes de marche. Ils ont des chevaux. Nous allons marcher sur leur première batterie et ramener 2 lapins. Mais les sentinelles, major, l'un de nous trois, dit-il aux soldats. Il s'interrompit, regarda l'aide de camp. Vous venez, Hippolyte, n'est-ce pas ? Hippolyte consentit par un signe de tête. L'un de nous, reprit le major, se chargera de la sentinelle. D'ailleurs, ils dorment peut-être aussi, ces sacrés Russes. Bah, major, tu es brave, mais tu me mettras dans ton berlingot, dit le grenadier. Oui, si tu laisses pas ta peau là-haut. Si je suis comblé, Hippolyte, et toi, grenadier, dit le major en s'adressant à ses 2 compagnons, promettez-moi de vous dévouer au salut de la comtesse. Convenu, s'écria le grenadier. Ils se dirigèrent vers la ligne russe, sur les batteries qui avaient si cruellement foudroyé la masse de malheureux gisant sur le bord de la rivière. Quelques moments après leur départ, le galop de 2 chevaux retentissait sur la neige et la batterie réveillée envoyait des volées qui passaient sur la tête des dormeurs. Le pas des chevaux était si précipité qu'on eût dit des maréchaux battant un fer. Le généreux aide-de-camp avait succombé. Le grenadier athlétique était sain et sauf. Philippe, en défendant son ami, avait reçu un coup de baïonnette dans l'épaule. Néanmoins, il se cramponnait au crin du cheval et le serrait si bien avec ses jambes que l'animal se trouvait pris comme dans un étau. « Dieu soit loué !» s'écria le major en retrouvant son soldat immobile et la voiture à sa place. « Si vous êtes juste mon officier, vous me ferez avoir la croix. Nous avons joliment joué de la clarinette et du bancal, hein ?»« Nous n'avons encore rien fait. Attelons les chevaux, prenez ces cordes. »« Mais il n'y en a pas assez. Eh bien, grenadier !» « Mettez-moi la main sur ces dormeurs et servez-vous de leur châle, de leur linge. »« Tiens, il est mort, ce farceur-là !» s'écria le grenadier en dépouillant le premier homme auquel il s'adressa. « Oh, 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 cette farce ! Ils sont morts !»« Oui, tous. Il paraît que le cheval est indigeste quand on le mange à la neige. » Ces paroles firent trembler Philippe. Le froid avait redoublé. Dieu, mais perdre une femme que j'ai déjà sauvée 20 fois. Le major secoua la comtesse en criant « Stéphanie, Stéphanie !» La jeune femme ouvrit les yeux. « Madame, nous sommes sauvés !»« Sauvés ?» répéta-t-elle en retombant. Les chevaux furent attelés tant bien que mal. Le major, tenant son sabre de sa meilleure main, gardant les guides de l'autre, arme de ses pistolets, il monta sur un des chevaux et le grenadier sur le second. Le vieux soldat, dont les pieds étaient gelés, avait été jeté en travers de la voiture sur le général et sur la comtesse. Excités à coups de sabre, les chevaux emportèrent l'équipage avec une sorte de furie dans la plaine, où d'innombrables difficultés attendaient le major. Bientôt, il fut impossible d'avancer sans risque d'écraser les hommes et les femmes, et jusqu'à des enfants endormis qui tous refusaient de bouger quand le grenadier les éveillait. En vain, monsieur de Sucy chercha-t-il la route que l'arrière-garde s'est effrayée, naguère au milieu de cette masse d'hommes. Elle s'était effacée, comme s'efface le sillage du vaisseau sur la mer. Il n'allait qu'au pas, le plus souvent arrêté par des soldats qui le menaçaient de tuer ses chevaux. « Voulez-vous arriver ?» lui dit le grenadier. « Oh, au prix de tout mon sang, au prix du monde entier !» répondit le major. « Marche ! Oh, fais pas d'omelette sans casser les œufs !» Et le grenadier de la garde poussa les chevaux sur les hommes, ensanglanta les roues, renversa les bivouacs en se traçant un double sillon de mort à travers ce champ de tête. Mais rendons-lui la justice de dire qu'il ne se fit jamais faute de crier d'une voix tonnante « Gare donc, charogne !» « Les malheureux !» s'écria le major. « Ben, ça ou le froid, ou ça ou le canon hein, !» dit le grenadier en animant les chevaux et les piquant avec la pointe de son briquet. Une catastrophe qui aurait dû leur arriver bien plus tôt, et dont un hasard fabuleux les avait privés jusqu'alors, vint tout à coup les arrêter dans leur marche. La voiture versa. « Je m'y attendais !» s'écria l'imperturbable grenadier. « Oh, oh ! Le camarade est mort !»« Pauvre Laurent !» dit le major. « Laurent, n'est-il pas du 5e chasseur ?»« Oui. »« C'est mon cousin !»« Bon, la chienne de vie n'est pas assez heureuse pour qu'on le regrette par le temps qu'il fait. » La voiture ne fut pas relevée, les chevaux ne furent pas dégagés sans une perte de temps immense, irréparable. Le choc avait été si violent que la jeune comtesse, réveillée et tirée de son engourdissement par la commotion, se débarrassa de ses vêtements et se leva. « Philippe, où sommes-nous ? » s'écria-t-elle d'une voix douce en regardant autour d'elle. À Saint-Saint-Pas du pont, nous avons passé la Bérésina. De l'autre côté de la rivière, Stéphanie, je ne vous tourmenterai plus. Je vous laisserai dormir, nous serons en sûreté. Nous gagnerons tranquillement Vilna. Dieu veuille que vous ne sachiez jamais ce que votre vie aura coûté. Tu es blessé ? Oh, ce n'est rien. L'heure de la catastrophe était venue. Le canon des Russes annonça le jour. Maître de Studzianka, ils foudroyèrent la plaine, et aux premières lueurs du matin, le major aperçut leurs colonnes se mouvoir et se former sur les hauteurs. Un cri d'alarme s'éleva du sein de la multitude qui fut debout en un moment. Chacun comprit instinctivement son péril, et tous se dirigeaient vers le pont par un mouvement de vague. Les Russes descendaient avec la rapidité de l'incendie. Hommes, femmes, enfants, chevaux, tout marcha sur le pont. Heureusement, le major et la comtesse se trouvaient encore éloignés de la rive. Le général Héblé venait de mettre le feu au chevalet de l'autre bord. Malgré les avertissements donnés à ceux qui envahissaient cette planche de salut, personne ne voulut reculer. Non seulement le pont s'abîma, chargé de monde, mais l'impétuosité du flot d'hommes lancé vers cette fatale berge était si furieuse qu'une masse humaine fut précipitée dans les eaux comme dans une avalanche. On n'entendit pas un cri, mais le bruit sourd d'une pierre qui tombe à l'eau. Puis la Bérésina fut couverte de cadavres. Le mouvement rétrograde de ceux qui se reculèrent dans la plaine pour échapper à cette mort fut si violent, et leur choc contre ceux qui marchaient en avant fut si terrible qu'un grand nombre de gens moururent étouffés. Le comte et la comtesse de Vandière durent leur vie à leur voiture. Les chevaux, après avoir écrasé et pétri une masse de mourants, périrent écrasés, foulés aux pieds par une trombe humaine qui se porta sur la rive. Le major et le grenadier trouvèrent leur salut dans leur force. Ils tuaient pour n'être pas tués. Cet ouragan de faces humaines, ce flux et reflux de corps animés par un même mouvement, eut pour résultat de laisser passer, pendant quelque temps, moment la rive de la Bérésina déserte. La multitude s'était rejetée dans la plaine. Si quelques hommes se lancèrent à la rivière du haut de la berge, ce fut moins dans l'espoir d'atteindre l'autre rive, qui pour eux était la France, que pour éviter les déserts de la Sibérie. Le désespoir devint une égide pour quelques gens hardis. Un officier sauta de glaçon en glaçon jusqu'à l'autre bord. Un soldat rampa miraculeusement sur un amas de cadavres et de glaçons. Cette immense population finit par comprendre que les Russes ne tueraient pas 20 000 hommes sans armes, engourdis, stupides, qui ne se défendaient pas. Et chacun attendit son sort avec une horrible résignation. Alors le major, son grenadier, le vieux général et sa femme restèrent seuls à quelques pas de l'endroit où était le pont. Ils étaient là, tous quatre debout, les yeux secs, silencieux, entourés d'une masse de morts. Quelques soldats valides, quelques officiers auxquels la circonstance rendait toute leur énergie, se trouvaient avec eux. Ce groupe, assez nombreux, comptait environ 50 hommes. Le major aperçut à 200 pas de là les ruines du pont fait pour les voitures et qui s'était brisé l'avant-veille. « Construisons un radeau !» s'écria-t-il. À peine avait-il laissé tomber cette parole que le groupe entier accourut vers ces débris. Une foule d'hommes se mit à ramasser des crampons de fer, à chercher les pièces de bois, des cordes, enfin tous les matériaux nécessaires à la construction du radeau. Une vingtaine de soldats et d'officiers armés formèrent une garde commandée par le major pour protéger les travailleurs contre les attaques désespérées que pourrait tenter la foule en devinant leur dessein. Le sentiment de la liberté qui anime les prisonniers et leur inspire des miracles ne peut pas se comparer à celui qui faisait agir en ce moment ces malheureux Français. « Voilà les Russes, voilà les Russes !» criaient aux travailleurs, ceux qui les défendaient. Et les bois criaient, le plancher croissait de largeur, de hauteur, de profondeur. Généraux, soldats, colonels, tous pliaient sous le poids des roues, des fers, des cordes, des planches. C'était une image réelle de la construction de l'arche de Noé. La jeune comtesse, assise auprès de son mari, contemplait ce spectacle avec le regret de ne pouvoir contribuer en rien à ce travail. Cependant, elle aidait à faire des nœuds pour consolider les cordages. Enfin, le radeau fut achevé. 40 hommes le lancèrent dans les eaux de la rivière, tandis qu'une dizaine de soldats tenaient les cordes qui devaient servir à la marée près de la berge. Aussitôt que les constructeurs virent leur embarcation flottant sur la Bérésina, ils s'y jetèrent du haut de la rivière avec un horrible égoïsme. Le major, craignant la fureur de ce premier mouvement, tenait Stéphanie et le général par la main. Mais il frissonna quand il vit l'embarcation noire de monde et les hommes pressés dessus comme des spectateurs au parterre d'un théâtre. « Sauvage ! » s'écria-t-il. « C'est moi qui vous ai donné l'idée de refaire le radeau. Je suis votre sauveur et vous me refusez une place. » Une rumeur confuse servit de réponse. Les hommes, placés au bord du radeau et armés de bâtons qu'ils appuyaient sur la berge, poussaient avec violence le train de bois pour le lancer vers l'autre bord et lui faire fendre les glaçons et les cadavres. « Tonnerre de Dieu, je vous fiche à l'eau si vous ne recevez pas le major et ses deux compagnons !» s'écria le grenadier, qui leva son sabre, empêcha le départ et fit serrer les rangs malgré des cris horribles. « Je vais tomber, je tombe !» criaient ses compagnons. « Partons, en avant !» Le major regardait d'un œil sec sa maîtresse, qui levait les yeux au ciel, par un sentiment de résignation sublime. Mourir avec toi, dit-elle. Il y avait quelque chose de comique dans la situation des gens installés sur le radeau. Quoiqu'ils poussassent des rugissements affreux, aucun d'eux n'osait résister aux grenadiers, car ils étaient si pressés qu'il suffisait de pousser une seule personne pour tout renverser. Dans ce danger, un capitaine essaya de se débarrasser du soldat qui aperçut le mouvement hostile de l'officier, le saisit et le précipita dans l'eau en lui disant « Ah ah, canard, tu veux boire? Ben va !»« Voilà deux places !» s'écria-t-il. « Allons, major, jetez-nous votre petite femme et venez, laissez ce vieux rancantin qui crèvera demain. » « Dépêchez-vous !» cria une voix composée de 100 voix. « Allons, major, ils grognent les autres et ils ont raison !» Le comte de Vandière se débarrassa de ses vêtements et se montra debout dans son uniforme de général. « Sauvons le comte !» dit Philippe. Stéphanie serra la main de son ami, se jeta sur lui et l'embrassa par une horrible étreinte. « Adieu, » dit-elle. Il s'était compris. Le comte de Vandière retrouva ses forces et sa présence d'esprit pour sauter dans l'embarcation, où Stéphanie le suivit, après avoir donné un dernier regard à Philippe. « Major, voulez-vous ma place? Je me moque de la vie !» s'écria le grenadier. « Venez, ni femme, ni enfant, ni mère. Je te les confie, » cria le major en désignant le comte et sa femme. « Soyez tranquille, j'en aurai soin comme de mon œil. » Le radeau fut lancé avec tant de violence vers la rive opposée à celle où Philippe restait immobile, qu'en touchant terre, la secousse ébranla tout. Le comte qui était au bord roula dans la rivière. Au moment où il y tombait, un glaçon lui coupa la tête et le lança au loin comme un boulet. « Hein, major ! » cria le grenadier. « Adieu ! » cria une femme. Philippe de Sucy tomba, glacé d'horreur, accablé par le froid, par le regret et par la fatigue. « Ma pauvre nièce était devenue folle, » ajouta le médecin après un moment de silence. « Ah, monsieur, » reprit-il en saisissant la main de monsieur d'Albon, « combien la vie a été affreuse pour cette petite femme si jeune, si délicate. Après avoir été, par un malheur inouï, séparée de ce grenadier de la garde nommé Fleuriot, elle a été traînée pendant 2 ans à la suite de l'armée, le jouet d'un tas de misérables. Elle allait, m'a-t-on dit, pieds nus, mal vêtue, restait des mois entiers sans soins, sans nourriture, tantôt gardée dans les hôpitaux, tantôt chassée comme un animal. Dieu seul connaît les malheurs auxquels cette infortunée a pourtant survécu. Elle était dans une petite ville d'Allemagne, enfermée avec des fous, pendant que ses parents, qui la croyaient morte, partageaient ici sa succession. En 1816, le grenadier Fleuriot l'a reconnue dans une auberge de Strasbourg, où elle venait d'arriver après s'être évadée de sa prison. Quelques paysans racontèrent au grenadier que la comtesse avait vécu 1 mois entier dans une forêt et qu'il l'avait traquée pour s'emparer d'elle sans pouvoir y parvenir. J'étais alors à quelques lieues de Strasbourg. En entendant parler d'une fille sauvage, j'eus le désir de vérifier les faits extraordinaires qui donnaient matière à des contes ridicules. Que devins-je en reconnaissant la comtesse? Fleuriot m'a appris tout ce qu'il savait de cette déplorable histoire. J'emmenais ce pauvre homme avec ma nièce en Auvergne, où j'eus le malheur de le perdre. Il avait un peu d'empire sur madame de Vandières. Lui seul a pu obtenir d'elle qu'elle s'habillât. Adieu. Ce mot qui pour elle est toute la langue, elle le disait jadis rarement. Fleuriot avait entrepris de réveiller en elle quelques idées, mais il a échoué et n'a gagné que de lui faire prononcer un peu plus souvent cette triste parole. Le grenadier savait la distraire et l'occuper en jouant avec elle. Et par lui, j'espérais, mais... L'oncle de Stéphanie se tut pendant un moment. Ici, reprit-il, elle a trouvé une autre créature avec laquelle elle paraît s'entendre. C'est une paysanne idiote qui, malgré sa laideur et sa stupidité, a aimé un maçon. Ce maçon a voulu l'épouser parce qu'elle possède quelques quartiers de terre. La pauvre Geneviève a été pendant un an la plus heureuse créature qui y eut au monde. Elle se parait, elle allait le dimanche danser avec Dallo. Elle comprenait l'amour. Il y avait place dans son cœur et dans son esprit pour un sentiment. Mais Dallo a fait des réflexions. Il a trouvé une jeune fille qui a son bon sens et deux quartiers de terre de plus que dans la Geneviève. Dallo a donc laissé Geneviève. Cette pauvre créature a perdu le peu d'intelligence que l'amour avait développé en elle et ne sait plus que garder les vaches ou faire de l'herbe. Ma nièce et cette pauvre fille sont en quelque sorte unies par la chaîne invisible de leur commune destinée et par le sentiment qui cause leur folie. Tenez, voyez, dit l'oncle de Stéphanie en conduisant le marquis d'Albon à la fenêtre. Le magistrat aperçut en effet la jolie comtesse assise à terre entre les jambes de Geneviève. La paysanne, armée d'un énorme peigne d'os, mettait toute son attention à démêler la longue chevelure noire de Stéphanie, qui se laissait faire en jetant des cris étouffés dont l'accent trahissait un plaisir instinctivement ressenti. M. d'Albon frissonna en voyant l'abandon du corps et la nonchalance animale qui trahissait chez la comtesse une complète absence de larmes. Philippe, Philippe, s'écria-t-il, les malheurs passés ne sont rien. N'y a-t-il donc point d'espoir? Demanda-t-il. Le vieux médecin leva les yeux au ciel. Adieu, monsieur, dit monsieur d'Albon en serrant la main du vieillard. Mon ami m'attend, vous ne tarderez pas à le voir. C'est donc bien elle, s'écria Sucy, après avoir entendu les premiers mots du marquis d'Albon. Oh, j'en doutais encore, ajouta-t-il en laissant tomber quelques larmes de ses yeux noirs, dont l'expression était habituellement sévère. « Oui, c'est la comtesse de Vandières, » répondit le magistrat. Le colonel se leva brusquement et s'empressa de s'habiller. « Eh bien, Philippe, » dit le magistrat stupéfait, « deviendrais-tu fou ?»« Mais je ne souffre plus, » répondit le colonel avec simplicité. Cette nouvelle a calmé toutes mes douleurs. Et quel mal pourrait se faire sentir quand je pense à Stéphanie? Je vais au bonhomme la voir, lui parler, la guérir. Elle est libre, eh bien, le bonheur nous sourira, ou il n'y aurait pas de providence. Crois-tu donc que cette pauvre femme puisse m'entendre et ne pas recouvrer la raison? « Elle t'a déjà vu sans te reconnaître, » répliqua doucement le magistrat, qui, s'apercevant de l'espérance exaltée de son ami, cherchait à lui inspirer des doutes salutaires. Le colonel tressaillit, mais il se mit à sourire, en laissant échapper un léger mouvement d'incrédulité. Personne n'osa s'opposer au dessein du colonel. En peu d'heures, il fut établi dans le premier prieuré, auprès du médecin et de la comtesse de Vandières. « Où est-elle ? » s'écria-t-il en arrivant. « Chut ! » lui répondit l'oncle de Stéphanie, « elle dort. Tenez, la voici. » Philippe vit la pauvre folle accroupie au soleil sur un banc. Sa tête était protégée contre les ardeurs de l'air par une forêt de cheveux épars sur son visage. Ses bras pendaient avec grâce jusqu'à terre. Son corps gisait élégamment, posé comme celui d'une biche. Ses pieds s'étaient pliés sous elle, sans effort. Son sein se soulevait par intervalles égaux. Sa peau, son teint, avaient cette blancheur de porcelaine qui nous fait tant admirer la figure transparente des enfants. Immobile auprès d'elle, Geneviève tenait à la main un rameau que Stéphanie était sans doute allée détacher de la plus haute cime d'un peuplier, et l'idiote agitait doucement ce feuillage au-dessus de sa compagne endormie pour chasser les mouches et fraîchir l'atmosphère. La paysanne regarda M. Fanjat et le colonel. Puis, comme un animal qui a reconnu son maître, elle retourna lentement la tête vers la comtesse et continua de veiller sur elle. Sans avoir donné la moindre marque d'étonnement ou d'intelligence. L'air était brûlant. Le banc de pierre semblait étinceler et la prairie élançait vers le ciel ces lutines vapeurs qui voltigent et flambent au-dessus des herbes comme une poussière d'or. Mais Geneviève paraissait ne pas sentir cette chaleur dévorante. Le colonel serra violemment les mains du médecin dans les siennes. Des pleurs échappés des yeux du militaire roulèrent le long de ses joues mâles et tombèrent sur le gazon aux pieds de Stéphanie. « Monsieur, dit l'oncle, voilà 2 ans que mon cœur se brise tous les jours. Bientôt vous serez comme chez moi. Si vous ne pleurez pas, vous n'en sentirez pas moins votre douleur. »« Vous l'avez soigné, dit le colonel, dont les yeux exprimaient autant de reconnaissance que de jalousie. » Ces deux hommes s'entendirent. Et de nouveau, se pressant fortement la main, ils restèrent immobiles, en contemplant le calme admirable que le sommeil répandait sur cette charmante créature. De temps en temps, Stéphanie poussait un soupir, et ce soupir, qui avait toutes les apparences de la sensibilité, faisait frissonner d'aise le malheureux colonel. « Hélas !» lui dit doucement M. Fanjat. « Ne vous abusez pas, monsieur. Vous la voyez en ce moment, dans toute sa raison. » Ceux qui sont restés avec délices pendant des heures entières, occupés à voir dormir une personne tendrement aimée, dont les yeux devaient leur sourire au réveil, comprendront sans doute le sentiment doux et terrible qui agitait le colonel. Pour lui, ce sommeil était une illusion. Le réveil devait être une mort et la plus horrible de toutes les morts. Tout à coup, un jeune chevreau accourut en 3 bonds vers le banc, flaira Stéphanie que ce bruit réveilla. Elle se mit légèrement sur ses pieds, sans que ce mouvement effrayât le capricieux animal, mais quand elle eut aperçu Philippe, elle se sauva, suivie de son compagnon quadrupède jusqu'à une haie de sureaux. Puis elle jeta ce petit cri d'oiseau effarouché que déjà le colonel avait entendu près de la grille où la comtesse était apparue à M. d'Albon pour la première fois. Enfin, elle grimpa sur un faux ébénier, se nicha dans la houppe verte de cet arbre et se mit à regarder l'étranger avec l'attention du plus curieux de tous les rossignols de la forêt. « Adieu, adieu, adieu !» dit-elle, sans que l'âme communiquât une seule inflexion sensible à ce mot. C'était l'impassibilité de l'oiseau sifflant son air. « Je ne me reconnais pas !» s'écria le colonel au désespoir. « Stéphanie, c'est Philippe, ton Philippe, Philippe !» Et le pauvre militaire s'avança vers les béniers. Mais quand il fut à trois pas de l'arbre, la comtesse le regarda comme pour le défier, quoiqu'une sorte d'expression craintive passa dans son œil. Puis d'un seul bond, elle se sauva de l'ébénier sur un acacia, et de là sur un sapin du nord, où elle se balança de branche en branche avec une légèreté inouïe. « Ne la poursuivez pas, dit M. Fanjat au colonel. Vous mettriez entre elle et vous une aversion qui pourrait devenir insupportable. Je vous aiderai à vous en faire connaître et à l'apprivoiser. Venez sur ce banc. Si vous ne faites point attention à cette pauvre folle, alors vous ne tarderez pas à la voir s'approcher insensiblement pour vous examiner. Elle ne pas me reconnaître et me fuir, répéta le colonel en s'asseyant le dos contre un arbre dont le feuillage ombrageait un banc rustique. Et sa tête se pencha sur sa poitrine. Le docteur garda le silence. Bientôt, la comtesse descendit doucement du haut de son sapin, en voltigeant comme un feu follet. En se laissant aller parfois aux ondulations que le vent imprimait aux arbres. Elle s'arrêtait à chaque branche pour épier l'étranger, mais en le voyant immobile, elle finit par sauter sur l'herbe, se mit doucement et vint à lui d'un pas lent à travers la prairie. Quand elle se fut posée contre un arbre qui se trouvait à 10 pieds environ du banc, M. Fanjat dit à voix basse au colonel « Prenez adroitement dans ma poche droite quelques morceaux de sucre et montrez-les lui. Elle viendra. Je renoncerai volontiers en votre faveur au plaisir de lui donner des friandises. À l'aide du sucre qu'elle aime avec passion, vous l'habituerez à s'approcher de vous et à vous reconnaître. » Quand elle était femme, répondit tristement Philippe, elle n'avait aucun goût pour les mets sucrés. Lorsque le colonel agita vers Stéphanie le morceau de sucre qu'il tenait entre le pouce et l'index de la main droite, elle poussa de nouveau son cri sauvage et s'élança vivement sur Philippe. Puis elle s'arrêta, combattue par la peur instinctive qu'il lui causait. Elle regardait le sucre et détournait la tête alternativement, comme ces malheureux chiens à qui leur maître défendent de toucher un mets avant qu'on ait dit une des dernières lettres de l'alphabet qu'on récite lentement. Enfin, la passion bestiale triompha de la peur. Stéphanie se précipita sur Philippe, avança timidement sa jolie main brune pour saisir sa proie, toucha les doigts de son amant, attrapa le sucre et disparut dans un bouquet de bois. Cette horrible scène acheva d'accabler le colonel qui fondit en larmes et s'enfuit dans le salon. L'amour aurait-il donc moins de courage que l'amitié ? Lui dit M. Fanjat. « J'ai de l'espoir, monsieur le baron. Ma pauvre nièce était dans un état bien plus déplorable que celui où vous la voyez. »« Est-ce possible ? s'écria Philippe. Elle restait nue, reprit le médecin. Le colonel fit un geste d'horreur et pâlit. Le docteur crut reconnaître dans cette pâleur quelques fâcheux symptômes. Il vint lui tâter le pouls et le trouva en proie à une fièvre violente. À force d'instances, il parvint à le faire mettre au lit et lui prépara une légère dose d'opium afin de lui procurer un sommeil calme.